Aujourd'hui, la masterclass de Marine Diaye avec Delphine Chaume.
Marine Diaye, vous aviez décidé très jeune d'être écrivain, de consacrer votre vie à l'écriture. Et c'est ce que vous avez fait puisque vous avez publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. Vous avez même collaboré à l'écriture d'un scénario. Vous avez été primé. Donc on peut dire que vous êtes parvenu à l'objectif que vous vous étiez fixé. Et vous avez commencé à écrire très jeune, dès l'âge de 12-13 ans, c'est ça ? Qu'est-ce qui, à cette époque-là, vous a poussé à écrire ? Est-ce qu'on peut parler, vous concernant, de vocation ?
Je crois que je n'ai jamais eu le désir d'être écrivain. La question, je ne me la suis jamais posée, je crois, en ces termes-là. Ce que je voulais, c'était simplement écrire, faire des livres comme ceux que je lisais abondamment lorsque j'étais enfant et plus tard également. Et mon seul désir, mon seul but en effet dans la vie, c'était de faire moi aussi des livres, d'écrire. Mais être écrivain avec tout ce que cela impliquait, même de désir d'être lu, de reconnaissance, je crois que cela ne me traversait absolument pas l'esprit. C'est une sorte de vocation, en effet, mais simplement dans le désir d'écrire et non pas d'être celle qui écrit.
Dans un des derniers romans que vous avez publié, Marine Diaye, La Chef, vous explorez la naissance d'une vocation, cette fois en une chef en cuisine. Donc un métier très particulier aussi qui peut être ardu. Est-ce que pour vous le métier d'écrivain, l'écriture peut être comparé d'une certaine manière au métier de chef cuisinier ?
L'écriture me semble d'une certaine façon beaucoup moins difficile, beaucoup moins ingrate que le travail de la cuisine. On peut faire cette comparaison de manière assez conventionnelle, au sens où il y a dans les deux cas un acte de création. Mais je ne crois pas que la cuisine et l'écriture se ressemblent au-delà de cela. Je trouve que le travail de la cuisine est bien plus proche de celui des arts plastiques où les mains comptent autant que le cerveau, alors que l'écriture est vraiment un travail mental.
Alors vous avez publié votre premier texte qui s'intitule « Quand aux riches à venir ». Vous aviez 17 ans, enfin vous l'avez envoyé très jeune à Jérôme Lindon. Qu'est-ce qui vous avait donné l'idée de départ de ce texte ? Quelle a été l'impulsion de départ, Marine Diaye ?
C'est difficile à dire car cela remonte à très loin et ce premier livre édité n'était pas, et très loin de là, le premier livre que j'avais écrit. J'en écrivais depuis l'âge de 10-11 ans. Avant ce premier, il y en a eu peut-être 4, 5, 6, je ne sais pas exactement, car ils ont tous disparu. Je les ai détruits après que ce premier livre a été édité. Mais c'était le premier livre, en tout cas, que je proposais à la lecture, en l'occurrence d'un éditeur, car c'était la première fois que j'avais l'impression d'avoir écrit une chose montrable, une chose dont je n'aurais pas honte plusieurs mois après, comme c'était le cas avec les précédents livres. C'est la première fois que je me suis sentie assez fière de moi pour oser le montrer à un inconnu, d'ailleurs, puisque je n'avais pas la moindre relation avec Jérôme Lindon à l'époque. C'était un étranger, même dans tous les sens du terme. J'ignorais qui il était, j'ignorais l'histoire de cette maison. Je n'avais même pas vraiment une idée précise de son âge. Donc, voilà. Mais je pense d'ailleurs que le fait qu'il ait été un étranger a rendu plus facile aussi mon envoi. J'aurais eu du mal à faire lire ce premier livre dont j'étais à peu près satisfaite à un ami. Voilà, c'était nécessaire aussi que des yeux indifférents, étrangers, se posent sur mon travail.
Et de manière générale, Marine Diaye, d'où vient l'impulsion de départ de l'écriture ? Est-ce que c'est une image, une situation vécue ? Vous dites aussi que vous avez le goût des noms. Alors, est-ce que c'est un nom, un mot ? D'où vient l'idée de départ ?
Très souvent, c'est une image, mais une image qui peut être très vague. Ça peut être l'impression, même plutôt que l'image, d'une femme qui traverse une rue ou d'un homme qui prend le train. Mais c'est même plutôt de l'ordre du rêve, en fait, de l'ordre du songe. Et quand ces images deviennent récurrentes, elles m'intéressent. Et autour de ces images, j'entreprends de bâtir de la grammaire, de la syntaxe. J'entreprends d'organiser des phrases autour de ces images de rêve. Et c'est ainsi que les personnages se construisent, des choses qui flottent, des traits extrêmement flous, qui finissent par être entourés de mots et qui, grâce à ces mots, prennent forme et prennent vie.
Oui, parce que Marine Diaye, en fait, vos personnages sont pétris de détails très, très concrets. Leur environnement est très travaillé dans vos textes. Donc, en fait, cette nébuleuse que vous décrivez, progressivement, elle devient nette à l'aide de mots. C'est-à-dire que vous apposez des mots comme ça autour des personnages avant même d'écrire.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression de tracer des cercles autour d'une cible, on pourrait dire, d'un point d'intérêt, en tout cas, d'un visage ou d'une figure qui me plaise, voire m'intrigue, de tracer des cercles de plus en plus serrés, de plus en plus étroits autour de cette cible, jusqu'à l'emprisonner, jusqu'à l'approcher au plus près et arriver ainsi à y voir ce que je souhaite y voir, en fait à l'attraper, à la prendre dans mes rêves, presque, on pourrait dire.
Et alors c'est dans un second temps que l'intrigue se forme ou c'est concomitant ?
L'intrigue arrive vraiment après. Une fois que j'ai une idée plus claire des personnages, que j'ai une idée de leur prénom, je dis juste une idée de leur prénom car il arrive assez souvent que les prénoms ensuite varient, voire changent complètement, mais je ne peux pas imaginer une histoire si je n'ai pas des prénoms ou des noms et si je n'ai pas des traits en tête, des visages, des personnages. Si je n'ai pas des phrases, non pas tant dans la précision des mots que dans leur forme, dans leur structure grammaticale. Et c'est seulement après que j'ai tout cela en tête, ça reste mental. Hein. D'ailleurs, je ne prends aucune note à ce moment de mon travail. C'est uniquement lorsque tout cela se met en place qu'une ébauche d'intrigue se forme, et puis une histoire, et des événements, etc. Mais c'est en effet ce qui vient à la fin de la réflexion.
Et alors, Marine Diaye, pendant cette phase de réflexion, Qu'est-ce qui vous nourrit? Est-ce que c'est l'observation de la vie? Je sais que vous êtes très attentive à ce que vous appelez la vie ordinaire, enfin la vie quotidienne. Donc est-ce que c'est l'observation de la vie ordinaire? Est-ce que ce sont certains moments? Est-ce que vous vous plongez dans certaines œuvres, je sais pas, des morceaux de musique, des photos? Est-ce que ce genre de choses vous aide à densifier cette phase de réflexion mentale?
Non, je ne cherche rien, en quelque sorte, je ne cherche pas de nourriture, je laisse le flot des choses m'envahir, le flux de la vie m'envahir, mais je ne fais jamais de recherche, ou presque pas, sauf pour préciser des points de détail, mais jamais de recherche importante, jamais aucune forme d'enquête, et simplement quand je me mets à l'écriture même, j'aime m'entourer de livres que j'aime, ou plutôt d'auteurs dont le style m'aide à démarrer, comme Claude Simon par exemple, qui n'est pas un des auteurs les plus chers à mon cœur, mais dont le style m'apporte une énergie, un rythme lorsque je me mets vraiment à l'écriture.
Donc c'est, vous allez, parce qu'effectivement pour vous la lecture et l'écriture c'est assez indissociable, mais est-ce qu'il y a d'autres écrivains ou d'autres textes à d'autres moments de l'écriture quand elle est plus avancée, ou alors à ce moment-là vous fermez complètement les écoutilles et vous n'êtes plus d'aucun auteur?
Lorsque j'écris, ça ne me dérange pas de lire un peu tout et n'importe quoi, même, ce n'est pas un problème. Simplement, dans l'heure qui précède le moment de se mettre au travail, là, j'ai vraiment besoin de lire quelques lignes ou quelques pages d'auteurs dont l'écriture me nourrit beaucoup, oui. Mais sinon, en dehors des 2 ou 3 heures de travail, je peux lire un peu de tout, oui, ça ne me gêne pas dans le travail, je n'ai jamais eu peur que cela gêne mon travail ou l'irrigue de manière gênante.
Et alors justement dans cette phase d'écriture, est-ce que bon, vous avez besoin de ce petit sas d'une heure en fait avant de vous mettre vraiment au travail, est-ce que vous avez un endroit particulier où vous écrivez qui vous permet d'être un petit peu peut-être à l'écart des autres, puisque vous êtes quand même très entouré dans votre vie quotidienne. Est-ce que vous avez besoin justement d'avoir plusieurs heures devant vous? Vous savez que vous allez être tranquille en quelque sorte.
Non, juste une heure, trois quarts d'heure avant me suffisent. C'est une sorte d'échauffement, hein, un peu comme dans la pratique d'un sport. Et je n'ai besoin que d'être dans un lieu calme ou relativement calme, mais cela m'importe peu que ce lieu soit isolé. Cela m'importe assez peu d'être dérangée de temps en temps quand le motif est assez important pour le justifier, le dérangement. Mais ça, en fait, je n'ai jamais fait et je n'ai jamais voulu faire non plus, je crois, du moment de l'écriture, un moment si grave. Enfin, je crois aussi que j'aurais eu du mal à écrire si ce moment avait été dans mon propre esprit sacralisé en quelque sorte. Je crois que ce qui m'a aidé à avoir une discipline d'écriture, c'était de feindre que j'écrivais entre deux autres tâches, deux autres travaux, et que même si c'était artificiel, avoir l'impression que les 2 heures d'écriture étaient en quelque sorte arrachées à la matière même de la vie triviale, la vie de tous les jours. J'aurais été peut-être, empêchée, bloquée si ce moment avait été prépondérant, de même que je me laisse assez facilement déranger. Je peux me laisser entraîner dans une autre activité que celle de l'écriture, si j'en ai vraiment envie ou s'il fait beau, etc. En quelque sorte, tous les prétextes sont bons pour ne pas se mettre à écrire, sauf que, malgré tout, puisqu'il y faut une discipline, voilà, j'arrive à ne pas me laisser tenter par toutes les autres activités qui peuvent, sur le coup, sembler plus attirantes que celles de l'écriture. Car même si il n'y a rien que j'aime autant qu'écrire et lire, étrangement, le moment de s'y mettre est difficile depuis les débuts.
Vous parliez, Marine Diaye, de discipline. Quand vous avez commencé la phase d'écriture, du coup, vous forcez à écrire tous les jours sans moment de pause, sauf évidemment ce que vous disiez, les motifs très importants qui vous arrachent à la table d'écriture. Mais sinon, c'est quand même régulier dans cette phase-là.
Je tâche autant que je le peux d'écrire très régulièrement, sinon chaque jour, en tout cas presque chaque jour.
Et alors après, une fois que cette phase-là est achevée, si tant est qu'elle soit achevée, donc la phase de l'écriture, est-ce que vous... parce que bon, le rythme de vos phrases est assez identifiable, Marine Diaye, sans... pour beaucoup de vos textes, des phrases presque hypnotiques. Donc il y a vraiment un vrai travail sur le rythme. Donc est-ce que ce travail-là se fait dans la même phase d'écriture ou c'est postérieur que vous retravaillez vos textes depuis le début? Est-ce que vous les reprenez?
Non, je les reprends extrêmement peu. Je ne les reprends que sur des points de détail. Ce que j'écris lors d'une séance de 2 ou 3 heures est à peu près ce qui se retrouve dans le livre. J'écris peu, donc j'écris sur un temps très court et je crois que j'aurais jamais pu écrire plusieurs romans si ces 2 ou 3 heures de travail devaient être à chaque fois reprises, retissées, remaniées. J'écris peu, mais d'une manière fixe.
Donc, il vous est jamais arrivé de ne pas parvenir à écrire et d'être bloqué à un certain moment de cette phase d'écriture?
Non, il ne m'est jamais arrivé d'être bloqué. Il m'est arrivé, bien sûr, d'éprouver des difficultés, mais c'était jamais des difficultés de d'écriture même, de style, de ton, de rythme. C'était des difficultés liées à ce qui finalement me plaît le moins, c'est-à-dire l'élaboration d'une histoire, d'une intrigue minimale. C'est presque uniquement des questions de technique qui des fois me, non pas me freinent, mais en tout cas m'oblige à réfléchir d'une manière extrêmement précise sur ce que je veux ou dois faire. Mais écrire en soi, ça ne m'a jamais été un problème finalement.
Alors qu'est-ce que ça peut être, ces problèmes d'ordre technique?
Oh ben c'est que il arrive par exemple qu'aux 2/3 du livre, vous vous rendez compte que ce que vous aviez élaboré ne va pas aller avec ce que vous avez écrit dans les 30 premières pages, parce que il ne se peut pas que ce personnage arrive maintenant, alors que vous voyez des questions scénaristiques. En quelque sorte des questions de vraisemblance aussi. C'est là finalement où je me sens le moins à l'aise, car depuis toujours j'ai l'impression d'avoir une imagination assez réduite et élaborer des histoires est ce qui m'est le plus difficile. Oui.
Est-ce que Marine Diaye, c'est parce que vous avez aussi également écrit des nouvelles, est-ce que c'est quelque chose qui est moins difficile dans le cadre d'une nouvelle ?
Non, ça me semble plus difficile encore, car écrire un recueil de 5 ou 6 nouvelles, ça veut dire créer 5 ou 6 histoires différentes. Et comme c'est là, en ce qui me concerne, où le bas blesse, c'est, j'ai trouvé plus difficile d'écrire des nouvelles, ce qui fait d'ailleurs que j'en ai écrit très peu, finalement.
C'est moins le cas aujourd'hui dans vos romans les plus récents, mais vous avez longtemps introduit une dimension magique dans vos textes, dans vos romans, vous avez pu dire que vous éprouviez un plaisir esthétique à introduire des fantômes ou des sorcières dans certains de vos textes. Est-ce que introduire cette dimension magique vous a donné du plaisir? Puisque là, on parlait des difficultés, mais est-ce que ça fait partie du plaisir que vous pouvez éprouver à écrire?
Oui, bien sûr, je suis encore, mais moins, une grande lectrice de contes, de mythes. Et plus jeune, j'ai beaucoup usé de la magie, en effet, dans mes écrits. Il me semble aussi que à cette époque-là, le recours à la magie m'aidait aussi à traverser des moments du livre plus difficiles. Le manque d'expérience, dû simplement à mon jeune âge, faisait que des fois j'avais l'impression de ne pas réussir à me sortir de situations psychologiques sans le recours du merveilleux. Avec l'âge et l'expérience, j'ai de moins en moins recours au merveilleux parce que j'ai moins de mal précisément à imaginer des univers fictionnels à la fois réalistes et légèrement décalés. J'avais peur aussi, jeune auteur, du réalisme. Je craignais que très vite le réalisme devienne trivialité, et le merveilleux me semblait être une manière d'échapper à cette trivialité. D'une certaine manière, je pense que c'était une erreur, mais c'était aussi une erreur due à la jeunesse.
Donc là, d'avoir un petit peu d'avoir laissé de côté cette dimension, pour vous, c'est le signe que on progresse dans son art, dans sa discipline, qu'on peut progresser comme ça en épurant, parce que vous avez aussi beaucoup épuré votre style.
On peut reprendre la comparaison, comme en cuisine ou dans toute autre pratique artisanale. Bien sûr qu'on profite aussi de l'expérience des livres précédents et qu'on peut avoir l'impression de mieux travailler après 30 ans de pratique. Je profite en effet de tous ces livres que j'ai écrits, mais aussi des centaines de livres que j'ai lus depuis que j'ai écrit mon premier livre, pour mieux écrire, j'ai l'impression, ou en tout cas pour me sentir plus à l'aise et me sentir moins obligée aussi de prouver des choses, de montrer mes dons. Ça, c'est aussi une sorte d'erreur de jeunesse, de vouloir faire étalage de tout ce qu'on sait faire. Et avec le temps, on comprend qu'il n'est pas utile d'impressionner et qu'on sera peut-être plus profond si on sait mieux dissimuler ses dons.
D'où la recherche aujourd'hui de plus assumer de la simplicité, d'une certaine forme de simplicité, Marine Diaye.
Oui, j'ai l'impression que plus un propos me semble difficile à décrire, plus un sentiment me semble ardu à définir, et plus l'emploi d'une langue, je dirais pas simple, mais relativement simple et clair sera approprié, et que le détour par la sophistication n'est plus nécessaire.
Vous avez écrit également des pièces de théâtre, donc vous êtes lancé dans l'écriture dramatique à un moment. Alors pourquoi à un moment vous avez eu envie d'écrire une pièce, enfin de passer sur cette forme-là d'expression, et qu'est-ce qui a présidé à ce choix ? Est-ce que c'était le sujet qui ne pouvait se formuler que justement sous cette forme dramatique, ou ça a été l'inverse, c'est-à-dire que c'est la forme qui vous avait permis de trouver le sujet ?
Non, c'est beaucoup plus pragmatique que cela. Ma toute première pièce, Hilda, est venue d'une demande de France Culture. C'était une pièce radiophonique. Et d'ailleurs, toutes les pièces suivantes sont nées parce qu'on m'avait demandé d'écrire une pièce. Finalement, je n'ai jamais écrit de théâtre seulement mu par mon propre désir. Il y avait à chaque fois la demande d'une radio, d'un metteur en scène ou d'une actrice.
Alors ça correspond davantage à une écriture sous contrainte, finalement ?
Oui, alors la contrainte a toujours été extrêmement légère, hein, puisque j'ai toujours été absolument libre, évidemment, de mes sujets, mais presque aussi du nombre de personnages, évidemment, tout en restant dans un nombre de personnages compatibles avec les budgets qui faisaient l'objet de la demande. Mais à part ça, oui, la contrainte est très légère, puisque la pièce peut être extrêmement longue ou pas. Enfin, il n'y a vraiment aucune obligation, dans quelque sens, que ce soit. Mais je ne suis même pas sûre que j'aurais écrit du théâtre s'il n'y avait pas eu le désir de quelqu'un de me faire écrire du théâtre.
Et alors, est-ce que ça vous a semblé plus compliqué ? Parce que j'imagine que ce n'est pas du tout la même démarche d'écriture. Ou est-ce que pour vous, c'est pareil ? C'est-à-dire qu'il y a cette nébuleuse et ensuite vous écrivez ?
C'est exactement la même démarche d'écriture, c'est le même geste littéraire. Simplement, ce qui me semble plus simple, c'est que l'obligation de narration est bien moins forte. Le propos d'une pièce peut être extrêmement réduit. Et en cela, je trouve que c'est plus facile que d'écrire un roman, plus simple aussi, presque plus léger. En termes de temps, puisque je n'ai jamais écrit des pièces de 300 pages, écrire une pièce me prend beaucoup moins de temps que d'écrire un roman, et ça me fait plaisir aussi de vivre moins longtemps avec un travail prenant. Je trouve ça, oui, dans un sens plus léger, et j'aime aussi être délivrée de certaines obligations narratives un petit peu ennuyeuses, comme de décrire ce que fait très pratiquement le personnage dans un roman. Dans une pièce, on est libre évidemment de toutes ces conventions-là, hein, puisque ce sera au metteur en scène de faire se mouvoir les personnages. Voilà en quoi je trouve plus simple, plus léger et assez libérateur d'écrire une pièce par rapport à un roman.
Et lorsque vous avez entendu vos textes donc joués, qu'est-ce que ça, donc les pièces de théâtre, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous ? Est-ce que c'était étrange ? Est-ce que ça a créé une distance entre ces œuvres-là et vous ? Ou est-ce que ça vous était indifférent ?
Oh, ça ne m'était absolument pas indifférent. Ça m'a toujours intéressé beaucoup de voir le travail des acteurs et des metteurs en scène d'après mes textes. Il n'est jamais arrivé que j'assiste au travail avant la première, par choix. Et c'était donc à chaque fois une découverte qui m'a souvent troublée, étonnée, mais jamais déplu. Ce qui étonne toujours, c'est la réalité de la chair de la personne sur scène, alors que dans ce travail mental qu'est l'écriture, même si j'ai des visages en tête, la densité de leur corps en général, je ne l'ai pas, évidemment. Je ne sais même pas trop si les personnages sont plutôt fins ou gros ou grands ou petits, et de voir soudain cette matérialité là sur scène est très étrange, mais plutôt dans un sens plaisant.
Et si on revient sur cette question-là, Marine Diaye, des personnages, donc de ce que vous pouvez imaginer. Donc, je suppose que aucun de vos personnages ne provient d'une vague réminiscence d'une personne qui existe réellement. Ou est-ce que il y a quand même vous appuyez parfois sur des personnages existants ou des situations vécues?
Jamais directement, jamais entièrement, et jamais, je crois, de manière reconnaissable. Bien sûr, après, je me rends compte qu'il y a des aspects de telle ou telle situation qui sont entrés dans le livre, même des certaines phrases dites par des personnes que j'ai pu rencontrer qui sont déformées, entrées dans le livre, mais jamais directement. Donc, pour le dernier livre, La Chef, je me suis vaguement inspirée du personnage d'Eugénie Brasier, qui était une cuisinière célèbre au milieu du XXe siècle. On l'appelait la mère Brasier. Elle travaillait à Lyon. Mais c'est la première fois que cela m'arrive, et encore là, dans le livre, vraiment d'une manière, je crois, non reconnaissable par ceux même qui ont pu approcher la mère Brasier ou lire à son propos. Mais moi, je sais qu'il y a un tout petit peu de cette Eugénie Brasier dans mon personnage, mais c'est vraiment extrêmement léger.
Marine Diaye, vous avez dit que vous ne repreniez que très rarement l'écriture, excepté donc des détails techniques. Mais alors, à quel moment estimez-vous que l'œuvre sur laquelle vous travaillez est achevée, que vous pouvez la clore et la remettre à l'éditeur ou, dans le cas d'une pièce de théâtre, à la personne qui vous a demandé la pièce?
Là, c'est assez simple, car je sais quand je suis arrivée au bout de l'histoire. À un moment donné du livre, à la moitié du livre environ, je sais quelle va être la fin. Et lorsque j'y arrive, voilà, je sais que le livre est clos, je sais qu'il n'y a rien à ajouter. C'est la même chose pour les pièces de théâtre ou les histoires pour enfants. Je n'arrive jamais à la fin du livre sans avoir su plusieurs semaines avant déjà que la fin serait telle. Donc, une fois écrite, voilà, la messe est dite.
Mais alors, c'est en cours d'écriture que vous savez quelle sera la fin. C'est pas en amont.
Non, ce n'est jamais en amont. D'ailleurs, quand l'écriture commence, je n'ai pas de plan ou un plan extrêmement vague et qui change ou que je regarde à peine de toute façon. Et c'est vraiment le processus d'écriture qui va m'amener à mieux comprendre qui sont mes personnages et à les faire évoluer de ce fait de manière qui ait un sens. Et c'est pourquoi non, je n'ai jamais idée de la fin quand je commence, parce que je ne sais même pas exactement qui vont être mes personnages, ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas s'ils vont mourir ou pas, s'ils vont être heureux ou pas. C'est vraiment le processus d'écriture qui me fait préciser tout cela.
Est-ce que, Marine Diaye, vous diriez qu'une œuvre, enfin, un texte découle du précédent, ou est-ce que ces projets sont vraiment clos sur eux-mêmes et indépendants, ou est-ce qu'il s'agit d'une sorte de chaîne comme ça qui se déroule d'œuvre en œuvre ?
J'ai l'impression plutôt que chaque livre est très indépendant du précédent. Oui, après, bien sûr, mais ça, c'est pas une question de volonté, de contrôle. Je me rends compte qu'il y a des thèmes qui reviennent de livre en livre, et tout particulièrement dans les livres qui sont proches les uns des autres dans le temps. Mais je n'ai pas l'impression d'une chaîne, non. C'est chaque objet me semble très distinct des précédents. D'ailleurs, entre mes livres, entre mes romans, en tout cas, je laisse écouler plusieurs années. Et quand je commence un nouveau roman, je n'ai plus qu'une idée assez vague du précédent, car je ne l'ai jamais relu. Il n'y a pas un de mes livres que j'ai jamais relu. Donc plus le temps passe et plus les livres anciens deviennent flous dans ma propre mémoire, au point d'ailleurs qu'il m'est arrivé de répéter certaines scènes sans m'en rendre compte, parce que j'avais absolument oublié que j'avais pu déjà les introduire dans un livre ancien.
C'est une volonté de ne pas relire vos textes précédents, Marine Diaye, ou c'est tout simplement parce que vous n'en avez pas envie?
Je n'en ai absolument pas le désir, et je crois que au-delà de ça, il y a aussi la peur, sans doute, d'être déçu ou d'avoir envie que les choses soient faites différemment, ou d'être un peu gêné par des phrases qu'on ne trouve pas aussi bonnes qu'elles nous le semblaient quand on les a écrites. Oui, il y a sans doute la crainte d'être mécontente de moi-même.
Oui, pour éviter d'avoir envie de retoucher des œuvres qui de toute façon ne peuvent pas l'être. Et cette distance temporelle entre l'écriture de vos romans, c'est aussi quelque chose de calculé, c'est-à-dire que vous laissez volontairement passer du temps entre l'écriture pour ne pas être parasité en quelque sorte par l'œuvre précédente, ou c'est parce que vous attendez une nouvelle impulsion d'écriture?
C'est pas tant une volonté qu'une nécessité. Lorsque j'achève un roman, je me sens vidée en quelque sorte. Je serais incapable de reprendre l'écriture d'un nouveau roman seulement quelques mois après. Et puis j'ai l'impression de ne plus avoir la moindre idée de personnage, que je n'ai plus d'image en tête, enfin que toute la provision d'images et de mots, de phrases que j'avais a été complètement donnée dans le livre qui s'achève. Donc j'en serais incapable de toute façon. Et puis par ailleurs, puisque c'est ainsi, j'ai réussi à trouver agréable cette année, voire ces 2 ans de latence, de vacances, durant lesquelles se forme très lentement l'élaboration d'un nouveau livre. J'ai réussi à trouver ce temps enrichissant et même plaisant, alors que quand j'étais plus jeune, il m'angoissait, car j'avais l'impression qu'il signifiait que peut-être je serais incapable de m'y remettre. Et comme je sais maintenant que je serai en mesure de m'y remettre, qu'il n'y a pas de raison que cela change, c'est devenu un moment dont je sais profiter, alors que je n'avais pas trouvé le moyen de faire mon miel aussi de ces moments qui semblent être d'inactivité créatrice, mais qui ne le sont pas en réalité, car l'esprit, lui, même si je ne me rends pas toujours compte finalement, reste au travail.
C'est-à-dire que quand on est un écrivain, on reste un écrivain tout le temps, à n'importe quel moment, même sans écrire.
Oui, c'est une impression que j'ai souvent, que quand on a l'habitude d'écrire des romans, même quand on n'en écrit pas, ou peut-être aussi quand on n'en écrit plus, on continue d'avoir sur la vie, sur les gens, sur les choses, un regard de romancier. Oui, je le sens vraiment ainsi.
J'aimerais qu'on parle, Marine Diaye, d'une autre expérience d'écriture assez, sans doute étonnante que vous avez faite. C'est le projet de traduction de la Bible des écrivains, à laquelle vous avez participé. Donc c'était le projet de Frédéric Boyer. Alors comment est-ce que vous vous êtes emparé de ce travail-là, bon, déjà qui est relativement différent de l'écriture de romans. Comment vous vous êtes saisi de ce travail particulier ?
Alors, en ce qui me concerne, je n'ai rien traduit du tout. J'aurais été bien incapable de traduire de l'hébreu ou du grec. Mais nous travaillions, les auteurs, en binôme avec un traducteur, une traductrice. J'ai ainsi travaillé sur le livre de Judith et le livre de Ruth. Et nous avions une traduction mot à mot du texte original, à partir de laquelle nous écrivions notre histoire à notre façon. C'est la première et c'est la seule fois, d'ailleurs, où j'ai travaillé de cette manière avec un traducteur qui me présentait une matière brute, des fois presque difficilement lisible et compréhensible. C'était exprès, bien sûr, puisque le traducteur devait, lui, et ça devait être dur aussi, se priver de toute tentative d'écriture, de mise en forme, de mise en style, afin de laisser ce travail-là à l'auteur.
Et est-ce que ça, parce que là, est-ce que vous l'avez ressenti comme une contrainte là, ou est-ce que justement ça vous a permis de travailler autrement? Est-ce que ça vous a ouvert d'autres dimensions d'écriture ou...
Non, d'autres dimensions, je ne crois pas. Je l'ai pris vraiment comme un exercice, un exercice de style, avec une contrainte évidemment première, qui était celle que l'histoire de Ruth, l'histoire de Judith, devait être la véritable histoire. Il n'était absolument pas question de raconter sa propre histoire et de changer les termes de la narration, de changer l'intrigue. Donc c'était un exercice intéressant, mais quand même très, très strict de ce point de vue-là.
Marine Diaye, vous avez beaucoup bougé, habité dans des endroits différents, et notamment pendant plusieurs années à Berlin. Est-ce que le fait de vivre dans une ville avec un autre environnement linguistique, une autre langue que votre langue maternelle, a influencé d'une manière ou d'une autre votre écriture ou votre vision de cette nébuleuse dont vous parliez tout à l'heure?
Je crois que vivre en Allemagne n'a pas influencé mon écriture, j'ai presque envie de dire malheureusement, et ce pour une raison très simple, c'est que je ne suis pas arrivée à une maîtrise de la langue suffisante pour que la langue allemande puisse influer sur ma langue française, puisse la transformer légèrement, ou voilà, c'est absolument impossible, car mon allemand reste extrêmement pauvre, ce que je regrette. J'aurais aimé finalement que ma langue française même soit éventuellement mise en légère difficulté par une présence de plus en plus forte dans mon esprit de la langue allemande, mais ce n'est pas arrivé, cela n'arrivera pas. Tout ce qu'a pu apporter Berlin dans mon écriture, et ce n'est pas rien, bien sûr, c'est un lieu, ce sont des thèmes, c'est une présence de la ville elle-même que j'ai jusqu'à présent utilisé très peu, mais maintenant que je ne suis plus à Berlin, je sens que Berlin va prendre plus de place dans ce que je vais écrire. Et c'est ce qui s'est produit à chaque fois que j'ai vécu ailleurs. Cet ailleurs-là ne s'introduisait dans mes livres seulement une fois que je n'y étais plus, dans cet ailleurs.
C'est-à-dire qu'il faut une sorte de distance pour que ça puisse imprégner l'imaginaire.
Oui, c'est comme si la présence, dense et concrète de l'ailleurs dans ma vie m'empêchait de le voir avec des yeux littéraires. Enfin, c'est comme si c'était trop près de mes yeux pour que j'arrive à bien le voir. Et lorsque j'en suis éloignée, l'image devient plus vaste, plus précise aussi. Et c'est là que je commence à m'y intéresser du point de vue de l'écriture. J'ai l'impression de mieux voir les choses à distance, finalement.
Marine Diaye, comment est-ce que vous pourriez définir votre rapport à l'image, mais à l'image cinématographique cette fois, d'autant que vous avez collaboré à l'écriture du scénario du film White Material de Claire Denis. Donc comment vous définiriez justement ce rapport-là par rapport à votre démarche d'écrivain ?
C'est la première fois, quand j'ai travaillé avec Claire, que je travaillais assidûment avec une autre personne, puisque le travail sur la Bible avait été très court et il n'était même pas nécessaire qu'on se rencontre avec les traducteurs. Là, le travail avec Claire Denis a été intense et nous étions ensemble. Et ça m'a beaucoup intéressée car je me suis rendu compte que, contrairement à elle, j'étais incapable de voir des scènes, de voir des lieux, même de voir des personnages en train de bouger, de prendre des risques, de danser. Nous avons, je crois, une manière complètement différente de considérer une histoire, et c'est ce qui a fait, je pense, qu'on s'est bien entendu, c'est-à-dire Claire la voit comme une suite de scènes, alors que moi je voyais l'histoire, comme je le disais au début, sous forme de phrases. Voilà.
Alors comment vous avez réussi à collaborer finalement? Vous avez discuté longtemps.
Oui, de ce fait, nous étions très complémentaires, finalement. Claire livrait surtout, des images. J'essaie de trouver un terme plus précis, mais il ne me vient pas à l'esprit. Et quant à moi, j'essayais de transformer ces images qu'elle savait extrêmement bien me décrire en mots.
On a parlé un petit peu, Marine Diaye, de la manière dont vous pouviez percevoir vos pièces étant jouées par des acteurs. Comment est-ce que vous percevez la réception de vos romans auprès de vos lecteurs? Parce que dans Autoportrait en vers, le père dit que finalement il vaut mieux que les parents ne lisent pas les textes, les romans des enfants. Donc voilà, comment vous, vous percevez cette distance après qu'il y a entre vous et l'œuvre, et la réception et l'œuvre et vous?
En effet, quand des gens très proches lisent ce qu'on écrit, on peut éprouver une sorte d'embarras, de même qu'eux aussi peuvent éprouver une sorte d'embarras à l'idée qu'ils vont découvrir peut-être des choses qu'on aurait préféré laisser dissimuler, mais aussi qu'ils vont croire découvrir des choses qui, en réalité, ne sont pas celles qu'on a livrées de nous. On peut craindre des sortes de malentendus, mais c'est pas une crainte bien forte, et en général, tout se passe très bien. Mais il est vrai que faire lire ce qu'on a écrit, même à son éditeur, même à ses amis, c'est pas ce qu'il y a le plus agréable en ce qui me concerne dans le fait d'écrire. Et cela dit, je ne crois pas maintenant que je pourrais écrire en me disant que je laisse ensuite mes écrits dans mon bureau sans les montrer. Je pense que j'ai envie et besoin du retour des lecteurs, mais ce n'est pas pour autant toujours facile.
Est-ce que vous avez un lecteur privilégié? Enfin, votre mari est écrivain également. Est-ce que c'est le lecteur privilégié, ou est-ce que vous en avez un autre ou non?
C'est lui, en effet, Jean-Yves Sandret, qui est écrivain aussi. Et chacun est à l'autre son premier lecteur. Et critique aussi, car quand l'un de nous a fini un texte, qu'il le remet à l'autre, il ne s'agit pas simplement de le découvrir, mais aussi et sans doute avant tout de le lire avec l'œil le plus exigeant, le plus dur qui soit, de noter tout ce qui à notre sens ne va pas, d'en faire vraiment la critique, oui.
Et alors, est-ce que, Marine Diaye, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à ce regard-là, ou pas du tout?
Non, je ne pense pas du tout au regard de Jean-Yves Sandret lorsque je suis en train d'écrire. J'y pense, évidemment, et des fois... non sans une certaine appréhension lorsque je le lui remets, et lui, je crois, éprouve la même appréhension pleine de joie en même temps. C'est un mélange de plaisir et de fierté à montrer à l'autre le résultat d'un long travail, et une légère crainte à l'idée aussi de décevoir, évidemment.
Mais vous n'avez jamais craint le malentendu? Puisque, en tout cas, pas forcément auprès de ce premier lecteur-là, mais le malentendu plus largement, puisque vous êtes une écrivaine qui cultivait l'ambivalence, hein, c'est quelque chose qui est très important pour vous, justement, la question de l'ambivalence. Est-ce que de ce fait, vous craignez le malentendu?
Non, je ne crains pas, parce que comme il s'agit de romans, de fiction... les malentendus ne seraient que des interprétations différentes, donc il n'y a pas de malentendu, il me semble, dans la fiction. Enfin, il me semble que les malentendus proviennent des idées qui sont mal lues, mal ressenties, mais quand on est dans la narration, quand on est dans le roman, il n'y a que, selon chaque lecteur, il n'y a que des interprétations autres éventuellement que la sienne, mais qui ne sont pas nécessairement moins valables. Je ne vois pas en quoi des malentendus pourraient être créés par de la fiction, au sens où j'entends de la fiction qui ne prétend pas livrer des idées sur le monde, évidemment. Mais comme je ne suis pas dans cette fiction-là qui a des intentions, à des messages, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de malentendus, non.
Vous avez obtenu de nombreux prix, Marine Diaye, le prix Femina pour Rosie Carpe, le prix Goncourt pour Trois femmes puissantes, et Papa doit manger, une de vos pièces de théâtre est au répertoire de la Comédie française. Est-ce que, qu'est-ce que ces récompenses, ces signes de, très forts de reconnaissance, ont changé pour vous, ou n'ont-ils rien changé pour vous et dans votre démarche, dans le processus de création?
Dans le processus de création, j'ai envie de dire rien. Je le pense vraiment. Je ne vois pas d'ailleurs de quelle manière cela pourrait changer cela, enfin, le processus de création. Ce que ça change, eh bien, c'est ce qui se passe par exemple à Francfort, c'est qu'il y a beaucoup plus de traductions que ce n'était le cas. Voilà, c'est surtout cela qui change après l'attribution des prix. Mais à part cela, qui est important, rien d'essentiel en fait.
Est-ce que si on reprend la définition de Pessoa, l'intranquillité, est-ce que vous vous considéreriez comme intranquille, Marine Diaye?
Non, j'ai presque envie de dire au contraire. Non, je me sens plutôt tranquille, en effet. Oui.
Sans jamais la peur de ne plus avoir l'idée... cette nébuleuse pour écrire.
Non, ça ne me fait plus peur depuis longtemps. Plus jeune, en effet, oui, j'aurais été très effrayée à l'idée de ne plus arriver à écrire un jour. Maintenant, je me dis que si ça devait être le cas, ce serait parce que c'est nécessaire. Enfin, que si je n'arrive plus à écrire, c'est que je n'en ai plus le désir assez fort ou que je n'ai vraiment plus rien à dire. Et ça peut être une forme de délivrance aussi, finalement, de ne plus avoir le désir d'écrire ou d'avoir l'impression qu'on n'a plus rien à dire. Maintenant, je ne le verrais pas du tout comme une source d'angoisse ou de désespoir, mais plutôt d'autre chose qui serait presque le contraire de l'angoisse ou du désespoir.
Merci beaucoup, Marine Diaye, et merci à tous de nous avoir accompagnés dans cette masterclass.
Merci à vous.
C'était la masterclass de Marine Diaye avec Delphine Schaum. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Guergaillant.